voudrais vous raconter l'histoire du rire, ou plutôt l'histoire d'un homme. Ce n'est pas le genre d'homme à prendre part au petit combat de coq. C'est un homme qui souffre du malaise des autres, un homme qui voit tout, la gêne des uns, l'agressivité des autres, ceux qui ont pris leur revanche sociale et ceux qui ne l'ont pas prise. Il voit tout, il sent tout, et ce soir, plus que jamais, lors de ce dîner, il voit ce garçon parler trop fort pour étaler ses succès. Il voit la compagne de ce garçon hésiter entre honte et fierté, puis pencher pour la honte. Il voit le voisin de ce garçon qui se sent agressé par tant de grossièreté. Il voit le doute dans les yeux de son hôte, car l'ambiance ne prend pas. Il voit la jalousie, la peur même, dans les yeux de cet autre homme. Il voit tout, il voit trop. Les stratégies sociales et les rancœurs, l'obsession de la reconnaissance et ce bonheur qui s'éloigne. Alors, il fait ce qu'il sait faire. Il accomplit sa mission de libérateur, sa vocation de sauveur. Il fait rire. C'est un bon mot, une histoire drôle, une anecdote. Et voilà le rire comme une vague qui déferle sur la table. Le rire comme une onde qui rebondit de corps en corps. Soudain, l'impudique est un peu moins impudique. La honteuse un peu moins honteuse. Le jaloux un peu moins jaloux. Ces individus collés à leur identité, accrochés à leur ego. Voici qu'un mouvement les anime, les décolle d'eux-mêmes. Le rire est ce décollage. Il est comme un fluide qui dissout la colle, desserre les mâchoires, redonne du jeu. On respire un peu, épargné pour un temps par l'esprit de sérieux. Ce décalage, ce décollage, ce rire est sa victoire. Enfin, nous sommes ensemble. Nous ne rions pas d'eux, nous rions avec. Ce rire n'est surtout pas le rire social dont parle Bergson. Ce n'est pas le rire qui remet à sa place le déviant, qui rappelle à l'ordre le différent. Ce rire laisse entendre, au contraire, que personne n'est à sa place, ou que tout le monde l'est, que la vie, de toute façon, n'a pas grand sens, que l'existence n'est jamais qu'un joyeux bordel. Alors, autant en rire. Ce rire est sagesse. À quoi bon s'accrocher à son ego quand nous sommes tous embarqués sur le même bateau? Il va mieux maintenant, notre démiurge amoureux de son œuvre, de son bon mot. Il contemple son pouvoir. Cette fille qui mourait de honte, voilà qu'elle pleure de rire. Cet homme qui voulait faire taire l'assemblée, voilà qu'il prend part au concert. Pour en parler ce matin, du pouvoir du rire, mais aussi de ses limites, j'ai le plaisir de recevoir le dessinateur Jules. Peut-être d'ailleurs qu'il lui ressemble un peu, Jules, au héros de cette chronique. Jules, l'auteur notamment de Silex and the City, descendu dans la caverne de France Inter qu'il connaît bien sous le soleil de Platon, pour nous aider à répondre à cette belle question. Quel est le véritable pouvoir du rire?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Jules, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien. Alors, j'ai entendu que nous allions nous vouvoyer alors que ce n'était pas l'habitude qu'on avait. Mais je suis d'autant plus content que j'ai l'impression d'être BHL qui s'adresse à Ariel Dombal. Et donc, ça augure d'une émission formidable.
Pourquoi Ariel Dombal?
Il se vouvoie, il paraît, dans la vie.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes un petit peu retrouvé dans ce portrait?
C'est vrai qu'il y a un pouvoir du rire et c'est vrai que je suis fasciné par le grand jeu social. Et à vrai dire que ça pourrait aussi ne pas être drôle mais simplement grinçant ou ça pourrait être quelque chose de un peu d'entomologique quasiment, ouais. Parce que j'aime bien avoir ce pas de côté, observer, être pas complètement dans la mêlée. Je pense que le rire ça raconte un petit peu ça aussi, c'est-à-dire c'est un pas de côté, de pas être collé complètement à la situation. Ok, certainement c'est un décollage et en ça je me reconnais pas mal.
Quand on écoute les titres de vos différentes bandes dessinées, bien sûr, la série Silex and the City, que j'ai déjà citée, mais aussi précédemment, Le Guide du Moutard, La Croisade s'amuse, 50 nuances de grec, et puis les trois Lucky Luke plus récemment, La Terre promise, Un cow-boy à Paris, Un cow-boy dans le coton. On sent que vous aimez bien le détournement, mais je dirais le détournement mineur. Qu'est-ce qui se passe quand vous jouez comme ça avec les références finalement?
Il y a plein de choses. Ce jeu sur le langage, il a une profondeur particulière. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, c'est une blague. Il y a une dimension marketing très évidente parce que j'ai remarqué qu'en fait, les gens allaient vers ce qu'ils connaissaient. Donc en fait, quand ils voient marquer Silex and the City, tout d'un coup, il y a une petite fonction qui s'allume dans leur cerveau et puis donc, ils vont regarder ce que c'est. Et ils voient en fait, c'est un petit peu différent de ce qu'on croyait. Donc ce petit dérapage attire l'œil et est un petit peu excitant, je pense, pour gérer la chimie du cerveau. Mais par ailleurs, si on réfléchit un petit peu aussi à ce processus, c'est une façon de s'affranchir d'un langage tout cuit, tout fait, qu'on nous livre comme ça sur un plateau en permanence. Et ceux des slogans publicitaires, ceux des grands titres, ceux des éléments de langage de la politique, tous ces langages des communicants, on l'ingère, on le métabolise en fait, et on finit par c'est finalement, d'une certaine façon aussi Flaubert et les idées reçues. On est traversé par une espèce de langage social et on répète ad libitum des choses que on a entendues dans notre berceau, à l'école, à la radio, dans les publicités.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous assumez une dimension d'habileté en communication, et vous avez raison, une dimension de marketing, et en même temps, ce que vous faites emprunte à une logique du déplacement et de la condensation que Freud avait vu au travail dans la logique des rêves, dans la logique onirique, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas commercial du tout. Je pense que c'est peut-être ça qui fait votre patte, c'est ce mélange de quelque chose d'un peu attrape, un peu commercial, et puis de quelque chose qui est très érudit, qui est très délicat. Comme si, finalement, vous ne pouviez avoir ce génie du titre que vous avez sans être passé par la psychanalyse et par le divan, par exemple.
Oui, c'est un peu une subversion, et en fait, voilà, ça, les choses s'explique ensuite d'elle-même assez facilement. À vrai dire, cette dimension psychanalytique, c'est le vitz freudien, c'est-à-dire le mot d'esprit, le moment où justement on fait un lapsus, où on prend un mot pour un autre, alors c'est pas quelque chose qui est entièrement contrôlé. Il y a une magie particulière quand on se met à le contrôler et à décider qu'on va aller dans telle direction. On va se tromper exprès. C'est aussi ça qui est un petit peu rigolo. C'est-à-dire l'art du rire, d'une certaine façon, quand on le pratique, quand on l'élabore, quand on le manufacture d'une certaine façon, c'est ça. C'est de créer une espèce de faux hasard, de fausse surprise, puisque en fait, c'est l'objet d'un grand artisanat. Et cette chose-là, pour moi, elle vient très souvent, justement, dans la zone précisément des lapsus, du rêve, dans la zone grise, un petit peu neuronale, entre la veille et l'éveil. Et ce moment où finalement circule quelque chose qui est en général un petit peu cloisonné, hermétique à l'intérieur de notre propre cerveau et qui est à la fois très révélateur et qui, par la surprise, provoque le rire.
Ce que vous évoquez là, si on l'entend autrement, à savoir pas simplement comme une mécanique du rire, mais comme une recette de créativité, c'est au fond, vous dites que pour être créatif, il faut que l'esprit sache aussi diverger et pas simplement converger vers un but. Et les psychologues, lorsqu'ils nous parlent de créativité, disent que voilà, il faut les deux. Il faut des moments où on se concentre sur un objectif, où la focale se resserre, et des moments où l'esprit, comme ça, passe du coq à l'âne et emprunte des circuits nouveaux. Et c'est ce qui s'appelle la divergence.
Mais surtout, c'est le repli où se cache la vérité. Pour rester dans le titre de cette émission, c'est-à-dire qu'on ne regarde jamais le soleil en face. Hein, c'est à travers l'ombre sur le mur de la caverne que les idées peuvent être appréhendées par le simple mortel. Et en fin de compte, justement, d'être en biais, cette espèce de marche du crabe par rapport à la vie, le rire la rend à la fois supportable et limpide. Donc c'est plutôt excitant.
Ni le soleil, ni la mort ne se regardent en face. Vous pensez que votre don pour le rire entretient quelque chose avec la mort ou avec la peur de la mort ?
Je pense que c'est quelque chose qu'on en partage beaucoup de gens qui se sont développés dans cette direction-là et dans ces domaines-là, de l'humour, c'est d'avoir soit une angoisse existentielle, soit des drames, des tourments, des anxiétés particulières en héritage. Et c'est une façon de vivre, malgré tout, avec ça, d'en faire quelque chose. Et de proposer aux autres qui partagent aussi cette angoisse-là, d'en faire quelque chose. Et moi, mes grands inspirateurs, mes grandes sources d'admiration... En bande dessinée, un René Goscinny au scénario, un Gottlieb, un Franquin, étaient des gens qui étaient entièrement voués à des démons noirs qui les rongeaient de l'intérieur aussi. Et sans paix, je pense que sans paix, il a une misanthropie incroyable. Ouais. Il est coriace, il est pas facile, sans paix. On s'extasie toujours devant la beauté sublime de ses dessins, cette espèce de grâce particulière de la jeune fille, du paysage, cette espèce de philosophie profonde de la solitude et du dérisoire des vies de chacun. Mais malgré tout, il y a une cruauté. Sampé, c'est quand même le mec qui réussit à faire s'envoler une espèce de portée de ballerine parce qu'on a ouvert la fenêtre et elles vont toutes s'écraser par terre au milieu de la salle. Il y a une espèce de sadisme un petit peu grinçant qu'on perçoit pas toujours, mais qui est très présent chez lui.
Revenons à cette idée du pouvoir du rire. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à l'expérimenter ? J'imagine que c'était dans l'enfance, peut-être à l'école ?
Oui, parce que le rire, ça permet d'abord, pour soi-même, d'acquérir une forme de pouvoir et d'existence sociale. Il y a plein d'autres moyens. Il y a la brutalité, il y a le charme, il y a le sport à l'école. Il y a les gens qui sont justement très costauds qui ont des attributs sociaux, par ailleurs, qui sont habillés d'une telle manière. Aujourd'hui, dans les cours de récré, pour ceux qui ont des enfants, on sait qu'il y a les populaires. Donc, et on ne rentre qu'au prix de grands sacrifices dans le gang des populaires. Et moi, ma seule façon peut-être d'avoir un strapontin dans cette communauté-là, c'était précisément d'être drôle et de passer notamment par le dessin.
Vous aviez quel âge à peu près?
Eh ben, je vais avoir même 3 ou 4 ans. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire des petits dessins pour faire rigoler les autres à ce moment-là. Et alors ça m'a gagné une espèce de prestige de aussi auprès des filles. Ça, c'est un truc qu'on partage beaucoup de dessinateurs, ouais, très souvent, des filles ou des garçons, mais en tout cas pour draguer et pour séduire, le dessin, c'était comme les gens qui jouent aux jeux interdits dans les soirées sur leur gratte. C'est un peu la même chose. Le dessin, c'est au long cours, hein, c'est moins évident. Il y a ce pouvoir-là, ce pouvoir pour exister, rayonner. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir dans la situation d'autorité et de suggestion qu'ont les élèves dans le système de l'école. Bien sûr, il y a les gens qui sont les plus forts dans la classe, mais il y a aussi les profs, la direction, etc. Moi, j'étais dans une école un peu particulière, très hippie, très post-68.
Quelle école ?
Qui s'appelait l'école de Crolly, avec une pédagogie alternative, comme ça, qui laissait beaucoup de latitude et de champ aux enfants pour développer leur propre goût, leur propre tempérament, à un rythme qui leur était propre aussi. C'est-à-dire que c'était très peu militarisé et hiérarchique, comme très souvent l'école en général. Et même dans ce système, malgré tout, il y avait quand même le prof avec sa position surplombante. Et je me rendais compte que quand je faisais des dessins sur les profs pendant les cours, moi j'étais plutôt un bon élève, donc ça faisait pas que j'étais en perdition totale à l'école non plus, le prof, ce rapport de suggestion et d'autorité s'inversait. Et donc de mettre les rieurs de son côté, c'était aussi une prise de pouvoir terrible. Et là, je l'ai expérimenté tout au long de mes études, au lycée, à l'université, dans les grandes écoles. J'ai continué toujours à dessiner à propos des profs.
Et ensuite, vous avez toujours utilisé ce rire pour créer du commun, un monde ensemble, pour rire avec, ou ne vous est-il pas arrivé aussi parfois de rire d'eux et peut-être d'en éprouver quelques remords?
En fin de compte, toute ma vie a été consacrée jusqu'alors à créer du commun et à m'intégrer, à faire partie, à créer une espèce de fraternité particulière. Mais c'est vrai que pour arriver là, je suis passé aussi par un certain nombre d'errements qu'on a tous. En fin de compte, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut pas trop réprimer les violences et les brutalités des enfants à l'école, parce qu'ils l'éprouvent et ils peuvent justement s'en prémunir, parce qu'ils l'ont senti de l'intérieur quand ils sont adultes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que cette espèce d'uniformisation des comportements des enfants, elle est un petit peu dangereuse. Et effectivement, je sais que moi, je faisais des dessins, et quand il y a des gens qui sont ostracisés, qui sont pris comme tête de turc dans les classes, c'est très facile d'être du côté des rieurs, du côté du groupe. Et cette chose-là, il faut une grande force de caractère pour réussir à être de côté.
Pour ne pas en abuser aussi.
Voilà, pour ne pas en abuser. Alors, et évidemment, moi, ça m'est arrivé, en fait, dans toute cette enfance, d'être plutôt du côté des chefs de bande, des gens qui se marraient au détriment des autres, et en participant avec mes dessins, en faisant des caricatures en plus qui passaient de main en main et qui accablaient et qui chargeaient les personnes, justement, qui étaient persécutées. Mmh. Et cette chose-là, je l'ai vécue et je le ressens encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, avec une honte cuisante. J'ai même, avec Internet, essayé de rechercher des gens que j'avais perdu de vue pour m'excuser auprès d'eux. Non, mais j'ai une espèce de poids comme ça, et cette brûlure-là, elle m'accompagne tout le temps. Et en fait, c'est comme une espèce de petit signal d'alarme en permanence, comme un genre de vaccin. Parce que, à l'échelle du monde adulte, cette chose-là qui est d'une violence insensée, dans un moment de brutalisation plus que jamais ces derniers mois de la vie sociale et de la vie politique, c'est important de le sentir.
Mais c'est très, très, très juste et très, très, très honnête et très joli que vous ayez honte. Parce qu'au fond, le problème, ce serait de n'avoir pas honte. À partir du moment où on a honte, on est civilisé. La honte indique un degré de conscience, finalement. Oui. Il ne faut pas avoir honte d'avoir honte.
Bah, oui, c'est vrai. Mais bon, il ne faut pas non plus donner des médailles de bonne conduite à l'aune du hontomètre de chacun. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Hein. Il faut essayer de comprendre des choses et surtout ne pas le reproduire. Parce qu'on peut avoir honte de quelque chose et le reproduire à l'infini. On s'en rend bien compte dans toutes sortes de comportements à travers notre vie. Mais oui, en tout cas, c'est une alerte, une conscience qu'il faut avoir. Et ce double tranchant du rire, que ce soit dans les gens qui sont des professionnels, des humoristes, des gens qui sont dans des émissions de radio, il y a plein d'humoristes à France Inter, à la télévision, et puis dans le monde du travail, les blagueurs. Très vite, ça peut être à double tranchant et ça peut être comme une espèce d'hubris de pouvoir particulier, surtout dans un moment de mollesse, de ventre mou social. Le rire, ça peut être un petit peu tranchant et tout d'un coup on le met en avant.
Il y a le rire et puis il y a aussi peut-être un petit peu différent l'ironie. Yankelevitch en parle très bien, notamment dans un livre qui porte pour titre l'ironie, où il revient sur l'ironie socratique et il a cette très jolie phrase. J'aimerais savoir ce qu'elle vous inspire. L'ironie est un pari sur l'intelligence de l'autre, l'ironie tend la perche à celui qu'elle égare.
C'est beau, en tout cas, comme toujours, c'est un peu un punchliner de première. Mais c'est vrai que de toute façon, le rire, quand il est associé à une forme d'art, la comédie, le cinéma, le théâtre, le dessin, c'est pas un art, une beauté en soi. C'est une beauté profondément relationnelle. Et cette dimension relationnelle du rire, justement, pour un Yankelevitch ou un Levinas, pour rester dans le champ de la philo, cette espèce cette façon de s'adresser au visage d'autrui, à la personne qu'on a en face de soi, et justement le fait qu'une blague au milieu du désert, perdue sur un bateau au milieu de l'océan, retombe immédiatement puisqu'elle n'existe que par la personne qui la reçoit. Et c'est pour ça aussi que ce qui est difficile quand on en fait un métier, c'est de faire une blague que l'autre comprend et d'avoir suffisamment de commun dans cette blague.
Voilà, c'est ça.
Voilà, pour qu'elle puisse être intégrée, raisonnée singulièrement dans la personne en face.
Et quand je vous écoute, je me dis justement que une partie de votre travail, notamment dans la série Silex and the City, qui est adaptée sur Arte, implique aussi pas mal de choses connues du récepteur. Donc vous avez quand même cet obstacle, cet écueil, de risquer de n'être pas compris. Auquel cas, l'ironie ne peut pas tendre la perche à celui qui a l'égard, parce qu'il n'est pas capable de saisir cette perche. Qu'est-ce que vous faites de cet écueil? Est-ce que vous en êtes conscient? Comment vous jouez avec ça?
On en a tout le temps conscience. De toute façon, à partir du moment où il y a plusieurs générations, il y a des générations qui ne comprennent pas forcément telle ou telle chose, on est de son temps, malgré tout. Et puis quand on s'adresse aux enfants, il y a des blagues que les enfants ne comprennent pas, des blagues que les vieux ne comprennent pas, et il faut essayer d'être le plus large possible. En fait, il y a un humour de niche, un humour communautaire, il y a tout un... D'ailleurs, un mouvement qui s'est développé là-dessus, un peu à l'américaine, avec des stand-up, le Jamel Comedy Club, des choses comme ça, où c'était un humour, voilà, qui s'adressait à tel ou tel type de communauté ou de personnes. Et moi, en fait, j'essaye de repousser, d'élargir le plus possible, mais à partir de qui je suis. Et malgré tout, qui je suis, c'est une espèce d'intello passé par l'histoire, passé par la philo. Et donc, je vais pas me transformer en Cyril Hanouna par un coup de baguette magique. Donc, à partir de là où je suis, j'essaie d'élargir en tache d'huile le plus loin possible et de faire à la fois des blagues qui intéresseront les rappeurs et les profs du Collège de France. Et
les rappeurs comme Jules.
Comme Jules, mon némesis, qui est venu sur Terre pour me hanter.
Alors, je voudrais que l'intellectuel que vous êtes écoute une chanson que j'ai préparée pour vous, une chanson du King. Je voudrais savoir ce qu'elle vous inspire.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome?
Oh, Lord.
I wonder how. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. And I had no cause to die. Oh, God. Sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome?
That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
C'était Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, mais la version riante.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Alors Jules, je voulais absolument vous faire écouter ça, parce que je trouve cette chanson où Elvis Presley est pris par le rire, par le fou rire, absolument incroyable. Il faut bien comprendre ce qui se passe. En fait, il est d'abord surpris, quand on voit la vidéo, on comprend, par une choriste, une femme, qui se met à partir en live et qui chante, qui se lâche complètement, un peu faux, mais quand même assez joliment
aussi. C'est une espèce d'Ariel Dombal.
On y revient. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que c'est la spontanéité, c'est cette espèce de mouvement de la vie, comme ça, par saccade, qui l'envahit. Et je trouve que ce qui est aussi très beau, c'est qu'il ne rit pas d'elle, finalement. Il rit avec elle et il accueille cet imprévu, quoi, cet impromptu, ce jaillissement, et il répond par le jaillissement de son rire. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Mais surtout, je voyais que même si vous avez déjà entendu l'archive 40 fois avant de préparer l'émission, ce qui n'était pas mon cas, tous les deux ont ri un peu comme des truffes en écoutant ça. Et donc ce caractère communicatif du rire, encore plus que les bâillements dans un wagon de métro, est merveilleux. Et ça, on ne l'explique pas.
Et ça m'amène à une question que je voudrais vous poser, inspirée de la théorie de Bergson, que moi je trouve assez réductrice.
Réductrice, et puis surtout quand on travaille sur le rire, moi j'avais lu le livre Le Rire, quand j'étais je crois en troisième ou en seconde, en disant, bah oui c'est mon rayon en fait, c'était le livre à périr d'ennui qui manquait complètement sa cible, de même que quand on essaie d'expliquer une blague, quoi. C'était
oui, assez... Alors, il manque sa cible, mais tout en disant quelque chose d'intéressant, mais je crois qu'on va pouvoir le dépasser ensemble. Ce que Bergson dit, c'est que ce qui nous fait rire, c'est quand il y a du mécanique plaqué sur du vivant. C'est-à-dire, je suis vivant, je devrais être fluide, je devrais m'adapter, je devrais marcher dans la rue d'un pas souple et rapide, mais je me prends une pancarte, je me prends un panneau, et je suis tout rigide, comme un robot ou comme un personnage de dessin animé. Et c'est vrai que ce qui nous fait rire, souvent, c'est cette espèce de vie fluide arrêtée par quelque chose de robotique, de mécanique. Mais pourtant, ça c'est vrai, mais c'est un constat. Ce que personne ne voit pas, c'est ce qu'on entend dans la sublime chanson d'Elvis Presley. C'est pas ce qui fait rire, mais ce que le rire nous fait. Et ce que le rire nous fait, c'est le contraire du mécanique plaqué sur du vivant. C'est la revanche de la vie, la fluidité, le partage, le fluide, tout ce qu'on a vécu ensemble en riant pendant cette chanson.
Oui, et puis c'est surtout des décharges d'émotions un petit peu échevelées. C'est-à-dire qu'il y a une sauvagerie du rire, en fait, même si elle est mesurée. C'est à la fois, c'est un paradoxe le rire, parce que c'est à la fois notre plus grande humanité. On n'est jamais aussi vertical et aussi humain et aussi moral que dans le rire. On est un mensch dans le rire, on est plus homme que jamais. Et à la fois, on a ce côté animal. Alors on peut considérer que les animaux ne rient pas, mais en tout cas, j'irais de notre espèce. Nous, l'animal homme, on a besoin de ça, comme cette espèce de décharge irrépressible, le fou rire dans une classe, le fou rire quand on voit à la télévision des gens qui présentent les infos et qui tout d'un coup sont pris parce qu'ils butent sur un mot ou quoi, ou sont pris par un fou rire, c'est très communicatif. Les bêtisiers pendant des années et des années de l'année montraient des trucs comme ça. Donc il y a ces deux dimensions.
L'homme est le seul animal qui rit de lui-même.
Oui, sans doute. Bon, quoique les animaux n'ont jamais fini par de nous surprendre, on va trouver que les organismes monocellulaires sont
Dans une logique blagueurs. Évolutionniste, je pense qu'il y a entre les animaux et nous qu'une différence de degré et non de nature. Donc peut-être que plus tard, quand leur degré de conscience aura évolué, ils pourront avoir la conscience d'en rire.
Avec les blagues de poulpe.
C'est ça. Mais je voudrais parler un petit peu d'autre chose, que je vous connais donc assez bien. Je connais votre goût pour les autres cultures. Vous êtes agrégé d'histoire, vous avez enseigné l'histoire chinoise, vous avez fait beaucoup de documentaires en Turquie, vous allez souvent en Iran. Et donc, ça m'amène à une question. Est-ce que vous croyez qu'il y a un rire typiquement français? Si oui, est-ce que vous incarnez ce rire français, ou est-ce que c'est pas un peu absurde de penser qu'il y aurait un rire français?
Le rire est très contingent, et on voit bien que selon les milieux sociaux, selon les âges, on ne rit pas de la même façon des mêmes choses, a fortiori d'une culture à l'autre. Et quand on passe dans une autre langue, dans la mesure où quand même le rire, très souvent, en tout cas moi, mon type d'humour passe par le langage, dès qu'on se translate vers une autre langue, on est complètement dans un univers différent. Et pour avoir travaillé sur la Chine, les blagues chinoises qui font rire les Chinois, je peux vous assurer qu'elles sont très 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 difficiles à trouver drôles de notre point de vue. Alors il y a quelque chose qui sont l'espèce de grande culture de masse mondiale qui vient beaucoup de Hollywood et du cinéma américain où il y a des comédies qui sont vraiment très universelles. Mais voilà, il y a des choses qui sont bien singulières. Et c'est sûr qu'en France, il y a un truc particulier, un type d'humour. Et
comment si vous le définiriez ?
Si on essaie, je sais pas si je pourrais vraiment le définir, mais en tout cas, on peut trouver une espèce de généalogie de cet humour, parce que d'un côté, il y a une espèce d'humus particulier qui date de très longtemps, probablement ce qu'on appelle l'humour gaulois. Finalement, je sais pas si ça de cette époque-là, mais en tout cas dès l'époque médiévale, c'est un côté un petit peu graveleux, sexuel, on se tape sur les cuisses, l'humour un peu rabelaisien d'une certaine façon. Et puis c'est matiné la pensée des Lumières en fait, et l'humour de salon, l'esprit français, le mot d'esprit, le jeu de mots, cette espèce de rapidité-là, d'acidité, de pic à la fois d'humanisme particulier et puis de cruauté aussi qui est une des conditions humaines, a matiné tout ça avec une couleur et une patine très très sophistiquée. Mais cette sophistication mêlée à cette espèce de brutalité réjouissante de cet humus du rire rabelaisien, il y a une grande révolution qui s'est passée au XXe siècle en France. C'est dû à la décolonisation. Parce qu'en fait, figurez-vous quand même qu'en 2 ans, la France, qui devait avoir, alors pour le coup, en tant qu'historien, je devrais le savoir, mais peut-être 35 ou 45 millions d'habitants à l'époque maximum.
Vous voulez dire en 62, par exemple.
Voilà, au début des années 60, au moment des décolonisations d'Afrique du Nord, tout d'un coup, il y a eu plus d'un million de personnes qui ont débarqué en métropole. Donc une personne sur 40, mettons, venait d'une autre culture.
Si je vous suis bien, je devine que les pieds noirs auraient réinventé le rire français.
Mais bien sûr, ils ont amené une espèce de soleil de fantaisie particulière, qui était une fantaisie exotique, qui avait été mélangé avec le monde arabe, le monde juif, cette question qui était très absente finalement de la scène de l'humour français. Et donc enfin, quand on regarde aujourd'hui les grands humoristes, les grands comiques, dans plein de registres, ça va de Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze au groupe Les Nuls, qui était énormément emprunt et héritier de tout ça, on se rend compte que ce soit d'autres gens dans l'humour politique, Guy Bedos, il y avait Boujna à une certaine époque, et puis les réalisateurs qui ont fait les comédies les plus marrantes de ces dernières années, très souvent sont porteurs de cette culture-là. Et ce choc-là, c'est cette singularité particulière du rire français.
C'est intéressant. Donc si je vous écoute, il y aurait deux grands pôles à l'origine, historiques. On va dire un pôle rabelaisien, le rire gros, le rire gras, le rire gargantuesque, le rire excessif, démesuré. Il y aurait un pôle l'esprit des Lumières, le rire pointu, précis, le rire de salon. D'ailleurs, on remarque que dans votre travail, vous aimez que ce télescope, les deux, vous aimez être à la fois Diderot et Rabelais, j'ai l'impression. Et puis, il y aurait les pieds noirs qui sauvent, enfin qui réinventent ce mélange en quelque sorte.
Voilà, et avec, en plus de tout, c'est-à-dire qu'il y a une sous-couche aussi que j'ai un petit peu oubliée dans la généalogie de tout ça, c'est l'humour de l'Est. Parce qu'évidemment, la France, justement, qui est une espèce d'énorme terre de brassage et d'accueil de toutes sortes d'influences culturelles, qui est vraiment entre le Nord et le Sud, qui s'est mélangé avec tout ça, l'humour qui vient du monde russe, du monde juif, du monde d'Europe de l'Est, qui a été important, finalement, aussi, dans la création, moi, tout cet esprit que j'ai adoré de Goscinny, de Gérard Houry, quand même le réalisateur des comédies les plus drôles de l'univers, tout ça, ça en fait quelque chose qu'on reconnaît à 1000 kilomètres. Il y a une odeur particulière, un goût particulier, et j'espère être un petit bout de cette mosaïque que j'aime tant.
Eh bien, je crois que c'est le cas. Et justement, je voudrais savoir si vous reconnaissez...
Vive la République, vive la France.
Si vous reconnaissez, cher Jules, ce sketch-là, un sketch des nuls.
Aux Trois Granges, on prépare l'hiver.
Que faisait le Morisseau ici ?
Rassure-toi, la Marcelle. Je n'en veux pas après ton frère. Il allait au village et je lui ai dit de me ramener du calicot gris et de la dentelle de Calais.
Le Douvre ?
De Calais.
Tu as vu qu'il y avait de la dentelle à Calais, bourrique ? Je te préviens pour la dernière fois. Si je revois le Morisseau chez toi, sorcière, si tu l'attires encore avec tes filtres et tes potions, je te cloue au mur, vipère !
Qu'est-ce que ça vous inspire, les nuls ?
Les nuls, ils reconnaissent beaucoup l'influence d'ailleurs d'un Goscinny et puis de cet humour américain de Mad, des frères Zucker aussi. Hein, ils ont fait beaucoup de reprises de toute cette bande qui avait fait « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» cette espèce de nonsense particulier. On est loin en France hein, de l'humour britannique du nonsense, mais malgré tout, on sait quand même l'apprécier beaucoup.
Mais les nuls s'en sont un peu rapprochés, c'est vrai, parfois.
Les nuls ont fait aussi voilà un nouveau mélange dont on ne peut plus se passer. Aujourd'hui, moi je fais partie de la génération qui s'est ouverte au monde grâce à cet humour-là. Et là, cet exemple-là, c'était une espèce de parodie des feuilletons paysaniers de l'ORTF en noir et blanc, comme ça, qui s'appelait La Grange et la Paille. Et donc, il revisitait un petit peu tout le patrimoine de la télévision, comme ça. Et donc, avec cette espèce de côté ruraliste absurde, complètement décalé, c'était absolument parfait parce que c'est ce mélange, moi, que j'aime beaucoup, de références classiques, de références culturelles, qui soient de la pop culture ou de la culture littéraire justement poétique, philosophique, et qui est restituée de manière très généreuse et la plus ouverte. Et je pense que ce sketch, on peut le lire et en rire à plein de niveaux, et où qu'on soit, à n'importe quel endroit, je dirais, du spectre historique ou culturel, on peut en saisir quelque chose. C'est cette grande générosité-là. Pour moi, les gens que j'admire le plus dans le domaine du rire, c'est ceux qui ont cette générosité de jamais trop être excluant.
Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, on retrouve cette espèce d'assemblage hétéroclite dans votre travail, cette espèce de mélange des époques, de mélange des genres, de mélange aussi des types d'humour. On pourrait presque dire que c'est un humour post-moderne, si on reprend la manière dont Jean-François Lyotard a défini le post-moderne. Il disait, voilà, le moderne, c'est la rupture avec la tradition, donc est moderne celui qui veut rompre et fonder du neuf, et post-moderne, celui qui prend des éléments de la tradition et les compose, les assemble avec des éléments de nouveauté dans un genre tantôt kitsch, tantôt hétéroclite, foisonnant et qui s'appellerait... Voilà, ça vous parle si je vous dis que vous êtes un dessinateur post-moderne ?
En fait, je pense qu'il y a une coquetterie au postmodernisme qui finalement a un petit peu réinventé l'eau chaude, puisque je pense que le processus de création depuis l'origine est une espèce de recyclage, de réinterprétation, fait de rupture et d'intégration de choses classiques. Je pense que directement après la grotte Chauvet. Il y a eu les postmodernes de la grotte Chauvet, donc je pense que c'est une coquetterie particulière.
Ouais, vous avez des petits trucs, des petites méthodes pour que la créativité vienne quand elle ne vient pas.
C'est de plus en plus douloureux. Il y avait Claire Bretéché qui racontait à quel point année après année, album après album, elle trouvait ça de plus en plus atroce de devoir trouver des blagues et c'était de plus en plus difficile. Il n'y avait pas du métier qui rentrait. La seule dimension de métier, je dirais, c'est précisément d'avoir le recul et l'expérience de toutes les souffrances passées pour essayer d'accoucher de quelque chose de drôle en disant mais on s'en est tiré finalement, ouais, on a réussi à en faire quelque chose. Rationnellement, on peut se raconter cette histoire, mais malgré tout, intérieurement, c'est une espèce de tortillage terrible, d'essorage de serpillère intérieure, où on se dit que plus jamais on ne sera drôle et qu'on vivra dans une espèce de monde de cendres, sous un suaire, le dos voûté, et qu'on traversera l'existence jusqu'à la fin des temps, sans plus jamais avoir cette espèce de soleil et de cette rectitude et de cette verticalité du marrant, quoi.
Soyez rassurés. Pour l'instant, vous êtes encore drôle et je vous propose de faire une petite pause musicale pour fêter ça.
En ces temps, rien n'est parfait. Je suis la clé, la solution et les faits. Si ce monde part en fumée, on revient de tout, même du succès.
Si tu crois que j'ai le temps de passer à côté de ma chance, si tu ne crois pas que ma patience a des limites, tu te trompes à chaque fois. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. J'ai cherché, mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas depuis quand j'ai découvert. Non, je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. J'ai des vrais sorts dans la haine. Faut percer, quitter la tête. Pas de payer en espèce. Prends la game en toute vitesse. And you know, and you know, and you know, and you know. Comme la seule au monde. Il joue au ping-pong, s'envoie mon cœur. De gauche à droite, faut pas que je succombe. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. J'ai cherché, mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert. Non, je fais mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. J'ai des farceurs dans la haine. Faut persécuter la tête. Pas de garde, billets en espèce. Prends le game en toute vitesse.
On s'est en rien n'est pas fait.
J'ai appelé à l'aide. J'ai cherché mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas depuis quand j'ai découvert. J'ai des vrais sorts dans la haine. Faut persécuter la tête. Pas de garde payée en espèce. Prends le game en toute vitesse. And you know, and you know, and you know.
C'était Lou and the Yakuza dans la Hesse.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Alors Jules, merci d'être avec nous et de nous raconter un petit peu vos secrets de fabrication du rire. Ce rire qui a tant de pouvoir. Vous avez confié juste avant cette chanson votre peur de ne faire plus rire au fond, de perdre un peu ce pouvoir, presque ce don. Ça me fait penser au dernier livre de Guillaume Meurice, qu'on connaît bien à France Inter, Le Roi n'avait pas ri, où il raconte l'histoire du bouffon du roi, de François Ier, je crois, qui finalement, un jour, ne le fait pas rire, et à ce moment-là, les problèmes commencent, et je crois qu'il va être même condamné à mort pour ça, pour avoir cessé de faire rire.
Oui, mais ça montre justement que la position du fou du roi, du bouffon, et c'est pas une position de agréable et possible réellement pour, je dirais, accueillir le rire, pour être le creuset du rire. En fait, c'est une espèce de pour le coup, de rire mécanique, ouais. Un petit peu industriel d'une certaine façon. Et en fait, il faut une liberté. En fait, faut être un feu follet pour vraiment être du côté du rire. Il faut pas être assujetti à un pouvoir. Et cette chose-là, en fait, de l'absence de liberté que peut avoir le bouffon du roi, montre justement les limites des dispositifs très normés. Et c'est pour ça que, notamment, certains chroniqueurs, certains humoristes professionnels qui sont obligés de rire de quelque chose et qui, en général, provoquent plutôt le malaise chez les interlocuteurs, on a l'impression que c'est une espèce de passage obligé du spectacle culturel et médiatique d'aujourd'hui. Et on voit très bien qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, en fait, c'est une façon de dévoyer la grande liberté du rire.
Bien sûr. Le rire de résistance, c'est une expression de Jean-Michel Ribes, qui me rappelle, d'ailleurs, je crois que c'est Jean Moulin qui dessinait ces bourreaux.
Oui, alors, en fait, ce qui m'a toujours étonné, c'est que simultanément, au même moment, quelque part sur Terre, en Europe, il y avait deux personnes très célèbres qui faisaient des blagues, enfin, qui dessinaient des caricatures. Plutôt pas mal. Jean Moulin, lui, il avait fait les Beaux-Arts, et il était torturé dans sa cellule et il dessinait ses bourreaux, il dessinait ses tortionnaires, il en faisait
et
des
on a
caricatures.
Ses dessins, on peut voir ses dessins.
Je crois qu'on a retrouvé ses dessins et cette chose-là, en tout cas, elle a été racontée par les gens qui du moins tenaient sa détention et un petit peu bouleversante parce que justement, c'est une façon de malgré tout affirmer sa liberté de rire au nez et à la barbe du monstre et du diable et simultanément. Le diable lui-même était en train de bien rire de son côté, parce que on a bien vu d'ailleurs dans la religion chrétienne qu'il y avait une ambiguïté par rapport au rire. Est-ce qu'il est diabolique ou est-ce qu'au contraire il est très humain? C'est sûr que l'Inquisition n'était pas du tout du côté des blagues. Et ben c'est Joseph Staline. Pendant ses réunions politiques du Comintern, il dessinait les gens qui étaient autour de la table, tel général, tel amiral. Il les faisait avec des gros nez comme ça, pendus par les couilles.
C'est incroyable.
Et là, on les a trouvés. Moi, je les ai vus, ces dessins, justement, ces caricatures de Staline. Deux mois après, les types finissaient au cachot, au goulag, étaient exécutés. Et donc, le rire du bourreau et le rire de la victime se rencontraient simultanément dans les sous-sols d'un cachot et dans les ors de l'URSS. Et ça illustre très très bien, finalement, cette ambiguïté. En soi, intrinsèquement, le rire, c'est rien. C'est juste une façon d'exercer son humanité, et on peut l'exercer dans plein de directions opposées.
Quand même on voit aussi le rapport que, somme toute, le rire entretient avec la violence, violence que précisément il tient à distance d'un coup de crayon, d'un dessin. Il y a une phrase bien connue qui est devenue un cliché, le rire est la politesse du désespoir, voilà, puisqu'on ne peut pas s'en sortir, il nous reste le rire. Est-ce que vous savez de qui est cette phrase très connue qu'on a attribuée à n'importe qui? Alors évidemment à Oscar Wilde, à Paul Valéry, comme toutes les citations, à Churchill aussi, à Victor Hugo, mais non. Est-ce que vous savez de qui elle est?
Moi, je dirais François Hollande.
Non, elle est de Chris Marker.
Allons, bon, ça, je suis sûr que c'est faux.
Non, j'ai vérifié avant l'émission.
Ok, on va, je parie un dollar.
Alors, avant de savoir si vous allez gagner ou perdre, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est artiste et qui est pris d'une étrange manière de rire. Je voudrais savoir si vous allez deviner qui c'est.
Alors, je ris à peu près 20 minutes par jour. Et ça m'a énormément aidé à combattre la maladie. J'avais un emphysème qui était venu d'avoir trop travaillé avec le polyester. Et alors, j'ai commencé à essayer cette thérapie. Quand on rit, si on a, ça vous clarifie toutes les branches, tous les poumons. C'est fantastique ce que ça fait pour l'âme. C'est le meilleur antidépressant. Ça vous met dans une forme, c'est énergisant.
Vous avez une idée?
Ah, l'accent anglais, j'aurais dit Margaret Thatcher, mais en même temps,
non,
c'est pas
c'est une actrice. Pardon, c'est une artiste, excusez-moi.
Oui, parce que travailler avec le polyester.
Elle travaille la matière, c'est Niki de Saint-Phalle.
Ah, mais c'est horrible, parce que là, j'aurais pu gagner un dollar, parce que j'allais le dire complètement au pif.
Ah, c'est drôle.
Il faut toujours essayer, en fait, au cas où. C'est comme pour le loto.
Mais c'est comme, c'est la créativité, c'est le moment où il y a un dessin qui vient, c'est le moment où on a une idée, on ne sait pas pourquoi, finalement. Il y a des choses comme ça qui favorisent ces espèces de connexions. On a évoqué tout à l'heure l'idée du décollage. Le rire nous décolle, comme ça, nous fait décoller, au sens où, voilà, on s'envole, mais aussi, on nous décolle de plein de choses. Si je vous demandais, au fond, de quoi le rire nous décolle, vous répondriez quoi?
Il nous décolle de la sujétion à la norme, la sienne propre et celle qui nous est imposée de l'extérieur. Il nous décolle de l'angoisse de vivre permanente. Il nous décolle de l'heure de la mort qui arrive inéluctablement. Il est assez décollant, oui.
Vous vous rendez compte quand même que, c'est pas pour accabler ce philosophe que j'adore, Bergson, mais Bergson dit exactement le contraire. Il dit que le rire a pour fonction de nous ramener dans la norme en soulignant le décalage de celui qui a dévié par rapport à cette norme. Il parle d'une fonction sociale, une fonction, au fond, normalisatrice, normatrice du rire. C'est à croire qu'il n'avait pas beaucoup ri, ou alors pas beaucoup compris ce que vous dites, au fond.
Mais peut-être qu'à l'époque de Bergson, on était encore beaucoup dans le règne de l'humour franchouillard, qui effectivement avait peut-être cette dimension-là, parce qu'elle avait été, je dirais, ruminée par la société, de remettre en ordre les choses. Entre-temps, il y a eu plein d'effractions dans le domaine du rire, et qui ont fait exploser tout ce cadre-là. Mais effectivement, j'ai essayé de me souvenir, à part peut-être dans certains cabarets, qu'est-ce qu'il y a de vraiment très marrant à l'époque de Bergson? Il n'y a pas grand-chose. Il y a de l'esprit, il y a de la malice, il y aura l'humour d'un Proust ou d'un Céline. Mais en fin de compte, c'est pas exactement du côté du rire, c'est du côté du sourire, de l'intelligence.
Le sourire,
mais,
de l'esprit.
Mais le rire lui-même, bah voilà, je pense qu'il était dans les guinguettes, il était, je pense, au bord de Marne avec les personnages de Zola. Ce rire-là, qui est le rire très vivant, très populaire, probablement, il n'arrivait pas jusqu'au col amidonné de Bergson et ses souliers vernis du Collège de France.
Est-ce que vous connaissez ce proverbe tunisien « Ris de la vie avant que la vie ne rie de toi » ?
Alors là, c'est un coup bas parce que effectivement, c'est un proverbe moi qui m'a été dont j'ai hérité et qui pour moi m'accompagne. Et hac men deniac bel et hac men nec. C'est ça en fait. C'est une façon de. Je le répète trop, alors j'aurais pu le raconter au début de cette émission, mais bien sûr, c'est une espèce de petit talisman, de petit fétiche.
Tenir à distance ce qui nous effraie, c'est en rire, vous diriez? C'est tenir à distance ou c'est prendre avec soi?
C'est le reconnaître et le congédier avec Voilà, l'amitié
le d'un provoquer, le défier,
d'homme à homme.
Le défier peut-être, le regarder en face ou alors le contourner. Est-ce que vous avez un art du détournement, du contournement? Est-ce que pour autant, parfois, dans l'humour, on ne regarde pas en face ce qui nous fait peur, en fait?
En fait, moi, je pense que j'ai un tempérament assez peureux, en fait. Je suis un peu un trouillard pour les choses. Et en même temps, je me force parfois à affronter ce qui m'effraie, ce à quoi je résiste, les hésitations. Et en fait, pour moi, c'est mon outil, c'est mon sabre enflammé. On peut s'y brûler, mais en fin de compte, c'est comme ça que je traverse la vie, à la fois qui éclaire et qui brûle. Sans ça, je sais pas où je serais, peut-être au rayon fusion-acquisition d'AXA à la Défense,
ou alors,
je serais un petit peu tristouné.
Ou alors peut-être, d'ailleurs c'est peut-être votre avenir aussi, dans un autre type de création non-comique, vous n'êtes pas tenté par des récits, des films, ou un roman graphique, vous n'êtes pas tenté par une sortie aussi de la veine comique?
Oui, mais je me rends très bien compte que je serai très très vite dans une espèce de mélancolie particulière. Et donc, je pense que je vais encore un tout petit peu attendre pour l'infliger à mes contemporains.
Vous avez raconté souvent avoir eu une révélation très jeune en lisant Gottlieb, je crois. C'était Gottlieb le premier. Est-ce que vous pouvez nous dire, essayer de, avec le recul, de dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première fois, finalement, cette première rencontre avec le rire et son pouvoir?
À vrai dire, Gottlieb, c'était en termes graphiques, c'est-à-dire c'était cette grande liberté de dessin, une façon d'incarner non classique des choses que déjà j'avais éprouvées dans les premières lectures. Aujourd'hui, je travaille sur Lucky Luke comme scénariste, ouais. Et c'est ça, c'est Lucky Luke, Astérix, ces albums-là qui m'ont fait rire avant tout, au tout début, et puis le petit Nicolas, toutes ces choses-là. Et en fin de compte, oui, Gottlieb, lui, il avait un côté peut-être plus moderne, plus vivant. C'était mon prof de CM1 qui a dit à mes parents, compte tenu des dessins que je faisais partout dans mes cahiers, que j'aimerais probablement ça. Et j'avais eu à Noël l'album des rubriques à braque comme ça, qui avait été effectivement une épiphanie. Non, je saurais pas dire, ça vient petit à petit, en fait, et puis c'est une pratique, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on se tire de situations bien empêtrées, et donc on essaye de répéter, d'améliorer, d'affiner, d'aiguiser cet outil merveilleux. Mais parfois ça marche pas. Et en fait, je crois que il y a un risque, un écueil dans lequel il faut surtout pas tomber, c'est essayer d'avoir du rire partout.
Oui, justement.
C'est comme tout cuisiner avec du chocolat, ça marche pas.
Je pensais à ça en vous écoutant. Quelles sont les choses qui ne vous font pas du tout rire?
Il y a énormément de choses.
Un peu sérieux, soudain, là.
Non, je réfléchis. Enfin, la plupart des choses me font pas du tout rire.
Pourtant, quand on regarde vos dessins, vous avez été au début dessinateur de presse, l'Écho des Savanes, l'Obs, je crois, l'Humanité, Charlie Hebdo. On a l'impression que rien ne vous résistait, que vous pouviez prendre n'importe quel sujet.
Oui, en termes de sujets, je pense qu'effectivement, il y a toujours cette idée que tous les sujets sont comme des huîtres dont il faut trouver une ouverture, parfois avec aisance et parfois en s'escrimant et en se blessant les mains, mais on finit toujours par ouvrir l'huître et trouver un trésor à l'intérieur. Mais en fin de compte, la plupart des choses, je les trouve pas spécialement drôles, je les trouve émouvantes, belles, grandes, troublantes, tristes. Et en fait, je pense que pour bien rire, il faut bien savoir pleurer. L'âme humaine est un océan, le rire fait partie des tempêtes.
Vous pensez que ce que disait Nietzsche, c'est que plus, au fond, plus la vie est tragique, plus la joie est nécessaire, et la joie est comme une réponse au tragique de l'existence, une joie qui est aussi une provocation, un défi, qui a une forme de légèreté, mais qui est profonde. Nietzsche disait superficielle par profondeur. Est-ce que ça vous parle, cette idée de joie tragique, ou vous n'iriez pas jusqu'à relier le comique à cette joie?
Mais si, bien sûr. Et en fait, c'est vrai que c'est un défi. Il y a un film que j'adore, qui est pas du tout dans le registre comique, quoique si, finalement. On est dans une ère culturelle aussi différente. On parlait de ça, de l'humour turc, iranien ou chinois. C'est un film japonais. C'est le dernier film d'Akira Kurosawa, ouais. Qui s'appelle Madadayo. Et en fin de compte, c'est un vieux professeur qui est adulé par ses élèves, et on le voit traverser les années, les décennies comme ça, toujours avec cette association d'anciens élèves qui, une fois par an, le célèbre, organise un grand dîner comme ça. Et puis petit à petit, ils boivent énormément de saké, et à un certain moment du dîner, ça bascule, et ils se mettent à l'interpeller. Tous ensemble, dans une espèce de grande chorégraphie, il leur demande, alors je parle pas vraiment japonais, mais en gros quelque chose comme « Ma-tai ». Et alors, un silence se fait. Et le vieux professeur, de sa voix chevrotante, à la fin, il a 100 ans, il est complètement beurré, il a bu je ne sais combien de litres de saké, il répond « Madadayo ». Et « Matai Madadayo », ça veut dire « Est-ce que tu es prêt ?» Et il répond « Pas encore ». la mort, l'oubli, le vide, l'angoisse et le néant l'ont pas encore englouti. Il n'est pas encore mort. Il n'a pas encore passé la barrière. Et c'est ça le rire, finalement. C'est de dire à l'horreur du monde, est-ce qu'il nous adresse cette question-là, est-ce que tu es prêt? Et tu réponds non, pas encore.
Ouais. J'aimerais vous demander, au sens le plus large, hein, pas uniquement au sens des références culturelles qui ont fait de vous le dessinateur que vous êtes, j'aimerais vous demander de quoi vous êtes l'enfant.
Je suis l'enfant du mammouth, déjà.
Oui.
Pas seulement parce que j'ai fait cette série Silex and the City, hein, qui se passe à la préhistoire, mais parce que mes deux parents étaient profs. J'ai un frère qui est prof, l'ai été brièvement moi-même. Et je dirais que cet extraordinaire dispositif de l'enseignement et de l'éducation sont ce qu'on a de plus précieux. Et en fin de compte, aujourd'hui, dans un moment où il y a une érosion, une douleur, une souffrance, un désarroi du côté des profs, qui sont finalement l'armée la plus remarquable d'émancipation, de liberté, de vie dont disposent les nations, je pense qu'il y a un hommage particulier à leur donner. Et en fin de compte, il n'y a rien de plus, même les profs les plus rébarbatifs, sévères, chiants, sont ceux qui nous donnent cette liberté, cette école-là, et dans laquelle s'enracine le rire, probablement. Et en fin de compte, moi, je suis l'enfant de ça. Mmh. J'ai eu de la chance, en plus, d'échapper à certaines contingences particulières de courses, de compétition entre les élèves, parce que j'avais pas de notes, travail conventionnel, j'avais pas de devoirs à la maison. J'ai eu cette chance-là, jusqu'à l'âge de 15 ans, de pouvoir juste bénéficier de cette espèce de lait et de miel de l'éducation, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Donc voilà,
merci,
je suis l'enfant
beaucoup.
De ça. Merci, l'école.
Ça fait plaisir d'entendre que vous êtes l'enfant du mammouth et d'entendre la résonance avec Silex and the City. J'avais pas pensé à ça. L'enfant de l'éducation nationale et puis
j'avais
l'éducation.
J'avais pas prévu la réponse, mais comme
et puis
ça,
l'éducation
ça
aussi un peu atypique. Je voudrais vous remercier de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon. Et pour cela, je vais essayer pour nos auditeurs aussi de résumer la philosophie de vie qui est la vôtre et que vous nous avez laissé entendre ce matin. Je dirais qu'elle est à la fois délicate et érudite. Je dirais que c'est une philosophie du pas de côté, du détournement, du contournement, du retournement. Je dirais qu'elle est malgré tout très française, tout en étant en même temps cosmopolite. Qu'elle est très sérieuse, au fond, sans esprit de sérieux, mais très sérieuse au sens où Freud a pu parler du sérieux, du mot d'esprit. Je dirais aussi qu'il y a une parenté qui va de Nietzsche à vous. Vous faites partie de ceux qui connaissent, au fond, le tragique de la vie et qui pensent que ce tragique n'est en rien incompatible, ni avec la joie, ni avec le rire, ni surtout avec tous les sourires de l'esprit. Jules, merci d'être venu sous le soleil de Platon.